Je vous invite donc à prendre maintenant votre Bible. Nous allons ouvrir dans Actes chapitre 10, le texte qui a été lu par le frère Christian tout à l'heure. Actes chapitre 10. Et nous allons donc lire quelques versets. Alors, les versets 34 à 48 ont été lus, mais vous connaissez probablement bien ce texte qui est le récit de la pénétration de l'évangile chez ce qu'on appelle les gentils ou les païens, hein, ceux qui sont les non-juifs. Et je donc propose ce texte comme méditation pour nous ce matin, parce que il présente ici l'évangile comme la réponse de Dieu à toutes les nations. On pourrait se poser la question dans les circonstances que nous sommes en train de vivre actuellement, quelle réponse il faut apporter au monde, aux hommes, à ceux qui sont autour de nous dans cette situation difficile hein, qu'on est en train de vivre. Et je crois que dans toutes les situations, la réponse, quelle que soit la situation, la réponse est la même. La réponse que nous devons apporter aux différentes situations de l'homme est l'évangile. Et c'est ce que l'on voit ici, hein, que Dieu apporte comme réponse à Corneille, qui était, nous dit-on, un homme pieux, craignant Dieu. Il lui apporte comme réponse son besoin de l'évangile. Donc je veux voir quelques petites choses dans ce texte. Je ne vais pas relire, mais les versets, quand on lit à partir du chapitre 1, de ce passage, on voit que Corneille était un militaire hein, italien, un centenier, donc dans la cohorte dite italienne, cohorte, ça comportait à peu près 600 personnes. Lui, il était responsable en tant que centenier, à peu près une centaine de personnes. C'était un homme qui craignait Dieu, qui était pieux, qui priait continuellement et qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple. C'est-à-dire au peuple juif, hein, donc il était très généreux aussi. Et ce que l'on voit ici, c'est que la chose dont il a le plus besoin, ici, cet homme, c'est de l'évangile. Donc l'évangile, le besoin de l'évangile pour toutes les nations. Je pense que c'est ça que ce passage nous montre ici, quand il est dit que l'évangile pénètre chez les païens, lorsque Dieu envoie chercher Pierre. Eh bien, c'est pour montrer aussi que le besoin de toutes les nations, quel que soit d'où on vient, eh bien, c'est l'évangile. Et donc, c'est cette réalité, je crois, que le texte met devant nous. Corneille est un non-juif, je l'ai dit, un homme pieux. Lorsque Dieu vient le visiter, lorsque Dieu vient le visiter par l'intermédiaire d'un ange, eh bien, l'ange le dirige pour qu'il puisse être mis au contact de l'évangile. Et c'est ce dont il avait le plus besoin. Vu de l'extérieur, on pourrait penser que c'est un homme pieux, nous dit-on, il prie, il fait des aumônes, qu'il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il est probablement agréable à Dieu. Mais la réponse ici que Dieu donne, c'est que même si des actes de piété sont bien visibles de la part de cet homme, eh bien, il demeure néanmoins vrai qu'il a besoin de l'évangile. Il a besoin que l'évangile pénètre dans son cœur. Et donc l'évangile est toujours vraiment, je crois, le besoin de l'homme, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa piété même, quel que soit l'endroit d'où il vient. Et quand on lit les versets 34 et du passage, 34 et jusqu'à 36 ici, eh bien, on voit que Pierre commence par dire que eh bien, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il reconnaît que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est quelque chose qui n'était pas évident du tout pour lui, hein, qui a vécu, qui a été forgé dans ce moule du choix que Dieu a fait du peuple d'Israël et de ce peuple qui est choisi par Dieu, la différence qu'il y avait entre ce peuple et puis les autres peuples et les païens. Et là, il arrive et quand il arrive chez Corneille, il dit que je reconnais en vérité. C'est quelque chose qu'il expérimente à l'instant même, probablement, qu'il reconnaît que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il dit, Il le dit au verset 36, bien sûr, c'est à Israël que la parole a été envoyée. D'accord? Au verset 36, Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Mais il reconnaît néanmoins que, eh bien, dans toute nation, verset 35, celui qui craint et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Donc, l'évangile n'est pas borné nationalement, géographiquement, ethniquement, et chacun a besoin de cet évangile. Toutes les nations ont besoin de cet évangile-là. Et même si, au préalable, c'est au peuple juif hein, que la parole a été adressée. On sait que le Messie est juif, il s'est incarné chez les juifs, l'Écriture affirme cette primauté du peuple juif. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que les juifs ont un réel avantage. Quand il dit quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est vrai. Et nous, le salut vient des juifs. Hein. Nous recevons ce que nous connaissons de Jésus-Christ par l'entremise du peuple juif, de ce que Dieu leur a révélé. Et c'est un avantage indéniable. Mais, cela dit, l'Écriture insiste ici sur le fait que Dieu, néanmoins, ne fait pas de favoritisme en matière de salut. Et si on lit l'Ancien Testament, dès le début, on voit que c'est la volonté de Dieu d'inclure les non-juifs, les païens. Et quand il parle à Abraham, il fait son alliance avec Abraham en disant « Voici l'alliance que je fais avec toi » dans Genèse 17, verset 4, par exemple. Il dit ici « Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Et ailleurs, on trouve « Beaucoup de familles seront bénies en toi. » Ici. Donc, on voit ici déjà l'intention de Dieu et le besoin aussi hein, de toutes les nations de connaître l'Évangile. Jésus avait dit à ses disciples, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. » Il parlait probablement de nous, hein, de ceux qui ne sont pas juifs. Bon, les disciples n'ont pas toujours compris ce que cela voulait dire. Et Pierre lui-même, ça a été très, très difficile pour lui, parce que même, vous vous rappelez dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul doit le reprendre parce que il n'agissait pas de manière droite hein, avec les païens. Il mangeait avec eux à un moment donné, et puis après, quand il voit arriver les juifs, eh bien, il se met un peu à l'écart. Donc, il a usé un peu de dissimulation. Mais ce n'était pas quelque chose qui était évident pour quelqu'un qui a été formaté dans le moule de la primauté du peuple d'Israël et du fait que les païens étaient hors de cette alliance. C'est ce que Paul dit, hein. Il dit que nous sommes, les païens étaient gens du dehors, ils n'étaient pas de la maison de Dieu, ils étaient sans espérance, étrangers aux alliances de la promesse. Et donc Pierre est obligé maintenant ici de reconnaître que eh bien, Dieu ne fait pas de favoritisme et que si les juifs ont été les premiers, maintenant la porte est ouverte aux païens. Et il n'y a pas plusieurs manières donc d'être sauvé. Tous ont besoin du même salut, que ce soit les juifs, que ce soit les païens. Dieu n'est pas le Dieu seulement des juifs, dit l'apôtre Paul. Il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, les besoins d'évangile est le même, dans les mêmes formes pour tout le monde, que l'on soit juif, que l'on soit non-juif. Parfois, quand on parle à certaines personnes, elles nous disent « Oui, mais ça, bon, ça c'est pour vous, hein, les Européens, ça c'est votre Dieu, ça c'est… voilà. » Mais non, le besoin de l'Évangile, il est pour tout le monde. Il n'est pas pour ceux qui n'ont aucune religion, et puis ceux qui ont déjà leur religion, ils peuvent voilà, rester ainsi, se débrouiller. Non, il est pour tous les hommes, de tout peuple, de toute race et de toute nation. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Dieu vivant et véritable. Et il n'y a pas le Dieu des Européens, le Dieu des Africains, le Dieu des Américains. Il y a un seul Dieu qui fournit sa justice pour le juif et aussi pour le non-juif. Pour le blanc, pour le noir, pour le riche, pour le pauvre, pour l'homme, pour la femme. Eh bien, tous ont besoin de ce salut par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel, il n'y a aucune, pardon, l'apôtre Acte 4, pardon, 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc je crois que vraiment, quand on lit ce passage dans Acte 10, la pénétration de l'évangile chez les païens, cela nous montre que si Dieu fait pénétrer l'évangile chez les païens, c'est que le principal besoin de toutes les nations, c'est vraiment c'est l'évangile. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas l'éducation, comme quelques-uns disent, si on est éduqué, on vivra mieux, on fera moins de bêtises et on s'aimera plus, pas du tout. Le besoin le plus fondamental de tous, c'est vraiment le besoin de l'évangile. Je crois qu'il faut être conscient de cela dans nos pensées. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est le message de l'évangile aussi doit être entendu par toutes les nations. Ce passage insiste beaucoup sur la nécessité d'entendre le message de l'évangile. Alors, si vous regardez au verset chapitre 10 et au verset 22, lorsque les serviteurs de Corneille vont chez Pierre et puis qu'ils reviennent, eh bien, ils arrivent chez Pierre, ils lui disent ce qui s'est passé et ils disent, verset 22, chapitre 10, « Corneille, centenier, homme juste, craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Vous voyez ici, hein? C'est ce que l'ange a dit. Hein? L'ange lui a dit, va faire chercher Corneille, chercher Pierre, et il faut que tu entendes ses paroles. Ça, c'est une première chose. Regardez aussi au verset 33. Au verset 33, nous lisons aussi, j'ai envoyé, c'est Corneille maintenant qui parle à Pierre. Pierre est arrivé dans la maison de Corneille. Et il dit aussi, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes devant toi pour entendre encore tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et puis, lorsque Pierre, vous savez, au chapitre 11, sera revenu de chez Corneille, il va être accueilli par les autres Juifs qui vont lui reprocher d'être entré chez un païen et d'être entré dans la maison de païen, ce qui était formellement interdit. Et Pierre va devoir le raconter tout ce qui s'est passé. Et il dira au verset 13, il dit, cet homme, en parlant de Corneille, nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira, vous voyez, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc c'est dire ici, hein, l'importance que le message soit entendu. C'est un besoin, mais il faut que le message de l'évangile est un besoin, mais il faut aussi qu'il soit entendu et entendu par toutes les nations. Et on voit ici comment Dieu gouverne les circonstances des hommes pour faire entendre l'évangile. On voit comment Dieu gouverne vraiment les circonstances des hommes pour faire entendre l'évangile. Et les circonstances et les hommes. Hein. Il gouverne les circonstances lorsqu'il intervient de manière miraculeuse dans la vie de Corneille. Et lorsqu'il, par une vision, et aussi que par une vision, il intervient chez Pierre. Acte 10, 22 dit Corneille, centenier, homme juste, craignant Dieu, et qui de toutes les nations rend un bon témoignage, a été divinement averti par le Saint-Esprit. Hein. Et donc Corneille reçoit une visite surnaturelle. Dieu bouscule son existence naturelle dans le but de lui faire entendre le message de l'Évangile. Et Corneille, ici, mesure l'importance de cela, hein, parce qu'il a, on nous dit le texte, hein, rassemblé sa famille, il a rassemblé ses amis pour ce moment spécial. Et lorsqu'il va parler à Pierre, il dit, voilà, nous sommes là devant Dieu pour entendre tout ce que tu as à nous dire. Donc, Dieu ici a organisé les choses. Il est intervenu miraculeusement, on pourrait dire, dans la vie de Pierre en lui donnant cette vision. Il est intervenu miraculeusement dans la vie de Corneille en lui donnant aussi cette vision pour qu'il puisse entendre le message de l'Évangile. Et on pense, par exemple, je pense au tremblement de terre qu'il y avait eu à Philippe lorsque Paul et Silas étaient en prison. Et Dieu a bousculé les choses, hein, il a amené ce tremblement de terre, il a changé les circonstances ici, pour que le geôlier puisse entendre le message de l'Évangile. Et donc on voit ici, hein, Dieu n'hésite pas quand il le faut à mettre en mouvement les choses dans le but de faire entendre le message de l'Évangile. Mais il gouverne les circonstances, il gouverne aussi les hommes jusque dans leurs convictions, et particulièrement l'apôtre Pierre, hein, on l'a dit tout à l'heure, qui est un juif, un bon juif, qui ne rentre pas chez les païens. On voit comment, par trois fois, il a eu cette vision que Dieu lui a envoyée, pour apprendre à ne pas considérer comme impur ce que Dieu a déclaré comme pur. Donc c'était une préparation pour lui, pour pouvoir entrer chez les païens. Et on voit que ce travail a fonctionné bien parce que les païens sont venus le rencontrer, les serviteurs du centenier sont venus le visiter, le voir, et il les fait loger chez eux parce que c'était trop tard pour repartir. Regardez verset 23, il dit « Pierre donc les fit entrer et les logea ». Ils sont partis le lendemain. Non seulement si les païens rentrent chez Pierre, mais un peu plus tard, le surlendemain, eh bien, Pierre va rentrer chez les païens. Et tout cela parce que Dieu a réformé sa pensée sur les païens. Et il le dira quand il arrive chez Corneille. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Il dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou comme impur. » Et donc c'est important, hein. Vous savez, ils regardaient, les juifs avaient l'habitude de regarder les païens comme, ils traitaient comme, les appelaient des chiens, hein, des impurs et des souillés. Et Dieu a dû intervenir pour changer la pensée de Pierre et son regard sur ces païens. Et je crois que c'est la même chose qu'il a besoin de faire aussi pour nous, bien souvent, transformer nos pensées. Parce qu'encore aujourd'hui, hein, nous véhiculons des pensées les uns sur les autres. Hein, parfois, en pensant que nous sommes peut-être meilleurs. Parfois, ici, on voit que c'est les prédicateurs même, parfois, qui ont besoin que leurs pensées changent sur les personnes, sur les peuples et sur les individus. Donc, Dieu intervient de manière forte pour pouvoir préparer son serviteur à entrer chez le païen et pouvoir permettre la pénétration du message de l'Évangile chez Corneille. Parce que Corneille avait besoin d'entendre l'Évangile. Donc Dieu gouverne les circonstances des hommes pour faire entendre l'Évangile. Mais on voit aussi que Dieu utilise les hommes, les humains, pour faire entendre le message de l'Évangile. L'ange, on pourrait penser, aurait pu annoncer à Corneille l'Évangile. L'ange connaît l'Évangile. Il aurait pu lui annoncer l'Évangile. Mais Dieu a voulu que ce soit des hommes qui soient les témoins de sa parole pour faire l'entendre à d'autres. Donc Dieu utilise des témoins humains pour propager l'Évangile. Et Pierre dit au verset 39, par deux fois, il dit, « Nous sommes témoins de ces choses. » Quand il va parler à Corneille, qui va développer maintenant son discours, il dit, « Nous sommes témoins de ces choses. » Et au verset 41, il dit « Dieu que Christ ressuscité est apparu non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance. » Et donc Dieu a choisi des témoins humains pour la propagation du message de l'Évangile. Ce n'est pas tout le peuple, tout le monde n'a pas été choisi pour voir, pour être témoin de la résurrection de Christ ici, mais ces choses ont été données à des témoins en particulier. Et plus tard, au verset 43, l'apôtre Pierre dit ici que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc, il dit même que les prophètes dans l'Ancien Testament, tous, dit-il, ici, on ne sait pas quel texte particulièrement il pense, mais il est clair dans ce qu'il dit que tous les prophètes rendent de Christ le témoignage. Et Jésus, rappelez-vous, quand il parlait avec les pharisiens, il disait, les scribes, il disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Il dit, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et quand Jésus a parlé avec les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui revenaient déçus parce que, voilà, Christ a été crucifié, eh bien, il leur dit, ô homme sans intelligence, lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Il fallait qu'ils pensent à ces témoins-là et qui ont témoigné de Christ. Et la Bible dit que, le passage dit qu'il commence par les prophètes et puis qu'il leur annonce tout ce qui le concerne dans les Écritures ici. Donc il en est de même aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour que le message de l'Évangile puisse être entendu, il faut des témoins humains. Mais il faut, je veux dire, pratiquement les mêmes témoins. Donc les témoins humains, le premier flot de témoins humains que rencontre l'incroyant, c'est nous, on pourrait dire. Mais nous faisons quoi? Nous les conduisons vers les témoins qui sont les prophètes et les apôtres. Et on ne peut pas entendre l'Évangile en dehors de ces témoins humains-là. C'est eux qui ont été choisis par Dieu pour prêcher, nous dit, regardez 41, il dit, et que Dieu nous a attesté de prêcher. Et c'est eux qui ont été choisis par Dieu, les prophètes et les apôtres, pour nous faire connaître les choses de l'Évangile. Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc on ne peut pas parvenir à la connaissance, au message de l'Évangile, en dehors du témoignage que nous apportent ces témoins dans l'Écriture. Et donc c'est pour cela qu'il est important, lorsque nous parlons aux autres, de les conduire vers ce que disent les Écritures, les prophètes et les apôtres, parce que Dieu a utilisé ses témoins, a choisi ses témoins pour nous faire entendre le message de l'Évangile. Troisièmement, je veux voir ici que le message de l'Évangile aussi concerne, non seulement il faut le faire entendre, mais il faut faire entendre quelque chose de spécifique. Et le message de l'Évangile concerne Christ, sa personne et son œuvre. Donc c'est ce qu'il faut faire entendre. Si nous lisons après au verset 37 jusqu'au verset 42, ici, eh bien, nous voyons que Pierre expose la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Regardez au verset 37, vous savez ce qui est arrivé. Et il dit même à Corneille, à ceux qui sont réunis dans sa maison, vous connaissez ces choses. Ce ne sont pas des choses cachées qu'il va leur annoncer. Ils ont entendu parler de Jésus, de ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, ce ne sont pas des choses qui sortent, une histoire qui sort de quelque part et dont personne n'est au courant. Il dit, vous savez ce qui est arrivé, verset 37, dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, pour désigner que c'est lui, il disait, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, c'est lui qui est loin de Dieu, qui a été choisi. Et donc il dit, ce que Jésus faisait, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait, délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et Pierre dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Donc il parle de la vie de Jésus, on pourrait dire ici. Et je crois que ce qui est donné là, c'est un résumé. C'est pas forcément tout le message de Pierre, mais certainement l'essentiel que le Saint-Esprit a voulu nous consigner ici. Et dès qu'il parle de la vie de Christ, et ensuite il parle de la mort de Christ, ils l'ont tué en le pendant au bois, donc il ne s'étend pas beaucoup là-dessus, mais aussi il parle de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et donc, c'est important ici, on voit le contenu de ce message, c'est la vie de Christ, ce qu'il a fait son ministère, la mort de Christ, la mort substitutive de Christ à notre place et pour nous, et puis la résurrection de Christ, et il insiste, il ajoute qu'ils ont bu, qu'ils ont mangé avec lui pour insister vraiment, je pense, sur la résurrection corporelle de Christ, hein, qu'ils ont pu toucher, ils ont pu manger et boire avec lui. Et puis aussi, je crois, et ce sur quoi il insiste le plus, c'est sur la venue de Jésus comme juge. Regardez au verset 41, il dit qu'il est apparu non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné, verset 42, de prêcher à tout le peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et on pourrait dire que le message se termine, le sermon se termine ainsi. Il présente Jésus comme celui qui doit venir, qui a été choisi par Dieu, établi par Dieu, le juge et des vivants et des morts. Et c'est cette vérité-là, ils ont reçu mandat, ils ont été ordonnés par le Seigneur Jésus-Christ de le prêcher. Et donc, on ne peut pas dissocier cette dimension de la prédication de l'Évangile. Faire entendre le message de l'Évangile, c'est faire entendre la vie de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, en expliquant bien sûr les choses, mais aussi le retour de Jésus-Christ en tant que juge. Il jugera le monde. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensent, une fois je discutais avec un collègue qui me dit, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de jugement. Et si on enlève cette dimension-là, eh bien, les hommes se sentent libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand on dit qu'il y aura un jugement, il y aura un compte à rendre, eh bien, ça nous met dans une pensée complètement différente. Donc, la réalité est que le message qui est laissé par Christ ressuscité, c'est que il faut prêcher son établissement par Dieu en tant que juge de tous les hommes. Et cela, cette réalité doit pousser à la repentance. Regardez ce que Paul dit, il dit la même chose que Pierre ici, quand il prêche aux philosophes et devant un parterre de philosophes à Athènes. Qu'est-ce qu'il dit? On trouve ça dans Actes chapitre 17. Il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, donc Actes 17, pardon, chapitre 17, versets 30 et 31, donc je reprends, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » C'est la même chose, le Christ ressuscité dit à Pierre, « Dieu m'a établi comme juge des vivants et des morts. » Et l'apôtre Paul dit, que Dieu a établi Jésus-Christ comme juge des vivants et des morts, et que la résurrection de Christ, c'est la preuve de cela. Et donc, repentez-vous. Il appelle les hommes à se repentir. On pourrait dire donc que le fait que Christ revienne en juge doit pousser à la repentance. Cela doit pousser à la repentance. Jésus avait dit lui-même, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc il vient, il dit, pour juger. Alors bien sûr, il y a le fait historique de la résurrection, mais aussi il y a le message spirituel que cela véhicule. C'est la certitude du jugement du monde qui est attesté par la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, cette réalité doit nous pousser à nous repentir, doit pousser à la repentance, mais cette réalité aussi doit motiver à servir. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 4, dit ceci, verset 1, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » Donc, il reprend la même thématique ici. Et il dit « Au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et on voit qu'il motive son fils spirituel Timothée à servir fidèlement, à prêcher la parole, à insister, que la situation soit favorable ou non, à reprendre, à censurer, à exhorter, avec bien sûr la douceur et dans le but d'instruire. Et il dit ici de le faire, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. » Donc cela doit rester une motivation pour le service ici. Voilà, donc ensuite, je voudrais dire ceci aussi. On voit que l'apôtre Pierre dit ici, au verset 43, que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc il prêche bien sûr la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, son retour en tant que juge, mais il ouvre maintenant, on pourrait dire, une fenêtre sur l'espérance ici. Il dit... Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Et donc, ici, il appelle, on pourrait presque dire ici, ses auditeurs, Corneille et puis tous ceux qui sont chez lui, à placer leur confiance en Jésus-Christ, à croire en Jésus-Christ, parce que c'est seulement ainsi qu'ils peuvent obtenir le pardon de leurs péchés. Certes, il est le juge qui est établi par Dieu, mais il est aussi le sauveur qui préserve de la colère à venir ceux qui placent leur confiance en Dieu. Quiconque croit en lui, ici, il dit « Ah, le pardon de ses péchés ». C'est le témoignage que rendent les Écritures et aussi que rendent les prophètes. Et donc, voilà le message, on pourrait dire, hein, qui doit être entendu. Dieu gouverne les choses pour que ce message soit entendu, les circonstances, les hommes pour que ce message soit entendu. Il utilise les témoins humains pour que le message soit entendu, et le message particulièrement repose sur les faits historiques de la vie, de l'incarnation de Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, mais aussi de son retour, parce que Jésus-Christ est vivant, il vit aujourd'hui et il reviendra, nous dit l'Écriture, pour être le juge des vivants et des morts. Troisième chose, donc premièrement, on a vu le besoin, n'est-ce pas, de l'évangile, le besoin de l'évangile pour toutes les nations, le message de l'évangile qui doit être entendu par toutes les nations. Et puis troisièmement, je terminerai avec l'expérience de l'évangile pour toutes les nations. Verset 44 à verset 48, il y a ici une belle expérience qui est faite par l'ensemble de toutes les personnes qui écoutaient la parole. Verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc tous ceux qui sont là, tous ceux qui écoutent en tout cas, dit le texte, font l'expérience particulière de recevoir le Saint-Esprit. Ça c'est le signe qu'ils sont sauvés, qu'ils sont en Jésus-Christ. Et donc les fidèles qui ont accompagné Pierre, premièrement, sont dans l'étonnement. Ce sont des païens. Et ils reçoivent le Saint-Esprit. Il dit, ils sont étonnés, ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est-à-dire que ce qui leur est arrivé est aussi arrivé aux païens. Alors les choses se passent pour eux pas différemment de comment ça s'est passé pour les juifs, de la même manière. À plusieurs endroits, dans ce passage, on insiste sur cela. Au verset 46, donc, on l'a vu, ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est ce qui s'était passé, par exemple, à la Pentecôte, avec les apôtres. Alors, cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'aujourd'hui, la réception du Saint-Esprit s'accompagne du signe du parler en langue, mais je crois que ce signe était important à ce moment particulier où l'évangile s'ouvrait aux païens. Il était important pour Pierre et pour les circoncis juifs de voir que ce n'était pas voilà, quelque chose de bas niveau qui se passait pour eux, c'était la même chose que pour eux. Et donc, Dieu a fait que les manifestations qu'il y a eu lorsqu'ils ont reçu à la Pentecôte le Saint-Esprit soient les mêmes ici, de manière à attester que c'est le même esprit qu'ils reçoivent, c'est le même salut qu'ils reçoivent, et que les païens sont comme au même niveau que les juifs en ce qui concerne la réception du Saint-Esprit et dans le domaine du salut ici. Et donc, ce signe était important, et c'est pour cela que l'apôtre Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Verset 42, pardon, verset 40, 40, 47, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? C'est le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu, et l'ont reçu de la même manière parce qu'il y a eu les mêmes manifestations. Ils ont parlé en langue, ils ont glorifié Dieu. Ça, c'est un signe que Dieu a donné, particulièrement pour cette époque. Donc ça ne veut pas dire que chaque fois qu'une âme vient au Seigneur et donc reçoit le Saint-Esprit et que cela se manifeste par le parler en langue. On ne trouve pas cet enseignement-là dans l'Écriture. Alors, on peut regarder en Actes chapitre 11, verset 15, Actes chapitre 11 et au verset 15, ici, il est dit ceci, lorsque je me fus mis à parler, donc c'est Pierre qui fait son rapport aussi au conseiller juif qui lui reproche d'être entré dans la maison des païens, il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Voyez encore là, comme sur nous au commencement. Et je me souviens que de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don, encore une fois, le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Vous voyez cela ici? Donc, ils sont dans l'étonnement que la même chose soit accordée aux païens comme eux. La même expérience. Et donc, l'expérience de l'évangile est pour toutes les nations. Ceux qui viennent à Christ font la même expérience que celle de Pierre, que celle de Jean, que celle de Paul, et que celle de tous ces circoncis, que celle de Corneille et de tous les autres qui sont avec lui dans cette maison. Donc, même don. Qu'au commencement, même repentance, etc. Donc l'expérience de Corneille est la même que celle de Pierre ici. Et il a reçu le même salut, il a reçu la même foi en partage. C'est ce que Pierre dit, par exemple, dans sa salutation en 2 Pierre 1:1. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, et il écrit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ça n'est pas une foi différente que l'on reçoit. C'est la même expérience qui est faite à chaque fois qu'une âme se tourne vers Christ. Parce qu'il y a, la Bible dit, un seul corps, un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, tant juifs que grecs. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4 et versets 4 à 6. Alors, juste pour terminer ici, comment se manifeste ce salut? On pourrait regarder rapidement. Eh bien, il y a l'obéissance, en passant par les eaux du baptême. On voit qu'ils ont été baptisés, verset 48. Et on voit la même chose chez Lydie, dans Actes chapitre 16, et aussi chez le geôlier dans la prison. Ils reçoivent la parole et il y a le baptême qui suit. Deuxième chose que l'on peut souligner, c'est le désir de communion. Quand une âme reçoit Christ, quand le salut, le Saint-Esprit vient habiter dans un croyant, il y a ce désir de communion. Regardez ce que les gens qui étaient chez Corneille disent à Pierre et aux autres et aux autres juifs, ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Je crois qu'il y a là, au verset 48, hein, un désir de communion. Acte 10, verset 48, le désir de communion. Reste un peu encore avec nous. Ils veulent profiter de ces instants pour partager encore des choses concernant l'évangile. Et donc, on voit la même chose aussi pour Lydie, hein, et on voit la même chose aussi pour le geôlier. Si on lit Acte chapitre 16, Lydie invite les frères à demeurer chez elle et à y rester. Le geôlier de Philippe, une fois qu'il est baptisé, eh bien, il fait rentrer Paul et Silas dans sa maison et ils se réjouissent, ils partagent une communion ensemble. Et l'évangile dans le cœur se manifeste toujours par le désir d'avoir de la communion avec les autres frères et sœurs. Et c'est pour cela que tout début de l'Église, il est dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Et puis, troisième chose que l'on peut voir ici, je crois que c'est un désir, le verset 48 exprime aussi un désir de croissance. Parce que s'il demande à Pierre de rester, ça n'est pas pour jouer, pour faire quelque chose d'autre. C'est pour être encore enseigné dans la parole de Dieu. Et un homme comme Corneille, si vous regardez comment il parle au verset 33 du chapitre 10, il dit, nous sommes devant Dieu pour entendre ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Il n'était pas là pour rigoler. Il est là, il était avec un sérieux pour écouter la parole de Dieu. Donc je suppose que quand il demande de rester ici, c'est pour développer davantage encore ce qu'il y a à développer sur l'évangile. Et donc un désir de croissance dans la connaissance et de la grâce de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit produit dans le cœur de ceux qui sont à lui et qui l'ont reçu. Le désir de croître, le désir de grandir. Ces gens s'exposent à la prédication de la parole, lisent l'Écriture. Ils ont le désir de connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment le signe, la manifestation, on pourrait dire, qu'ils ont fait la véritable expérience de l'Évangile et du salut. Alors, je terminerai avec quelques mots de conclusion, chers frères et sœurs. On voit ici que le besoin, hein, le plus urgent de l'homme, c'est pas autre chose que l'évangile, et seulement l'évangile. Mais que cet évangile doit être annoncé, le message de l'évangile doit être proclamé, doit être entendu, et que les personnes doivent faire l'expérience, bien sûr, de la réception de ce message-là. Et je voudrais dire ici, en conclusion, quelques petits points ici. On voit dans ce passage, on n'a pas tout développé, mais que Dieu ne fait pas de favoritisme en matière de salut. Et donc, il devrait aussi en être de même pour nous. Lorsque nous parlons, on peut avoir cette tendance naturelle d'être comme Pierre et comme les premiers disciples et d'aller seulement vers ceux qui nous ressemblent. Non pas qu'il faut les ignorer, mais nous le faisons parfois au détriment des autres qui sont à côté de nous. Nous ne vivons pas toujours à côté de ceux qui nous ressemblent. Et nous devons être animés du désir de partager aussi l'évangile sans favoritisme. Dieu a fait tomber les barrières de sorte qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, pour ce qui est de l'évangile, de son annonce. Et donc, nous ne devons pas redresser des barrières, hein, à notre tour. Donc, n'allons pas que vers ceux qui nous ressemblent et ne cherchons pas la communion que de ceux qui nous ressemblent, qui sont comme nous, même ethnie, même, je sais pas, même rang, etc. Mais que le Seigneur nous donne un cœur large pour embrasser vraiment les uns et les autres. Et tous ceux qu'il met à côté de nous. Quel que soit leur niveau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur facilité à s'exprimer ou pas, tout cela n'a rien à voir, hein. Dieu ne fait pas de favoritisme et nous ne devons pas non plus en faire. Deuxième chose que je voudrais souligner aussi, c'est notre disposition face à la prédication de l'Évangile. Moi, je crois que dans Corneille, on a un exemple de comment on doit écouter l'Évangile. L'attitude de Corneille, elle est vraiment instructive. Il dit au verset 33, nous sommes devant Dieu. Et lorsque l'on écoute l'Évangile, lorsque l'on se réunit dans le culte, on doit venir avec cette attitude. Nous sommes devant Dieu. Il ne dit pas nous sommes devant Pierre. Il ne dit pas Pierre, nous sommes devant trois Pierre. Il dit nous sommes devant Dieu pour écouter ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Donc non seulement il comprend qu'il est devant Dieu, mais il dit que voilà que Dieu a donné des choses à Pierre pour que lui il puisse les entendre et il désire entendre ces choses-là. Autrement, Il sait que ce qu'il va entendre vient de Dieu. Il ne prend pas la parole de Pierre comme la parole d'un homme, mais il la prend comme la parole que Dieu a ordonnée à Pierre d'annoncer. Et je crois que c'est ainsi, avec cette disposition de cœur, que l'on doit toujours écouter l'Évangile. On doit prier pour ceux qui nous enseignent l'Évangile afin qu'ils nous enseignent la parole droitement, mais quand on l'écoute, on doit l'écouter avec révérence, comme Corneille le fait ici. On voit que Corneille ne désire qu'entendre la parole de Dieu. Il ne contredit pas Pierre non plus. Il reçoit tout ce qu'il dit. Peut-être après, quand ils sont restés, il y a eu des questions à poser, mais il reçoit tout ce que Pierre dit comme venant de Dieu. Bien sûr, il faut être sage. Il faut être comme les chrétiens de Bérée qui examinent les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est juste. Mais c'est une chose que de vérifier les Écritures. Et c'en est une autre que de contredire ce qui est enseigné. Et on voit ici une attitude vraiment révérencieuse de la part de Corneille. Et je crois que cela nous interpelle sur notre manière d'écouter la parole de Dieu, de manière à ce qu'elle nous soit profitable. On voit le profit qu'il en a tiré. Quand on considère que c'est devant Dieu que l'on est et que ce que l'on entend vient de Dieu, la disposition de cœur est différente et le profit, le bénéfice, les bienfaits qu'on en retire sont beaucoup plus grands. Et troisièmement, je voudrais dire que témoigner, ce n'est pas raconter notre expérience, mais exposer les faits historiques de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, de son retour et du pardon qu'il offre. Pierre n'insiste pas sur sa première rencontre avec Jésus, ni sur la rencontre qu'il a eue avec Jésus lorsqu'il était ressuscité, où Jésus lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu ?» Et il ne dit pas comment il s'est senti dans cette expérience-là. Ce n'est pas mauvais de parler d'une expérience, mais quand l'expérience montre que quand nous parlons d'expérience, les gens peuvent amener leur expérience aussi. Et on parle, on échange expérience contre expérience ici. Et donc, ce n'est pas l'expérience, le ressenti qui est important, mais le message de l'Évangile. Et le message que Pierre fait entendre ici, il est vraiment spécifique. Il est centré sur Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. Le message à faire entendre, c'est que Jésus-Christ est vivant. Il est celui que Dieu a envoyé. Il a vécu sur cette terre. Ce sont des faits historiques. Il est mort, il est ressuscité. Et il est actuellement vivant au ciel. Et un jour, il reviendra. Il reviendra comme juge des vivants et des morts. Mais, en attendant, nous avons l'appel de nous tourner vers lui, la possibilité de placer notre confiance en lui. Parce que les prophètes et l'Écriture disent que quiconque croit reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et puis dernièrement, je vais dire aussi, ma vie témoigne-t-elle de la présence, notre vie témoigne-t-elle de la présence, de l'effet de l'Évangile? Est-ce que je suis comme Corneille et les autres, obéissant? Est-ce que, une fois au Seigneur, eh bien, je ne résiste pas à ce que je sais être son commandement, dans le baptême ou dans la participation à la scène, à la Sainte Cène? Voyez ici, l'Évangile arrive dans le cœur de ces hommes et ils sont pleins du désir d'obéir. Et on voit cette disposition déjà, même lorsque l'ange dit à Pierre, à Corneille, d'envoyer chercher Pierre, aussitôt la Bible dit, il obéit et il envoie chercher Pierre. Et lorsqu'il entend voilà, qu'il faut placer sa confiance en Jésus-Christ ici, eh bien, certainement, pendant que Pierre parle, la Bible dit, pendant que Pierre parle, le Saint-Esprit descend sur eux. Leur cœur était déjà à travailler, prêt à recevoir et à obéir à ce qu'ils entendent de la parole de Dieu. Est-ce que ce désir aussi est aussi le nôtre? Le désir de communion. Est-ce que je désire être en communion avec, voir mes frères et sœurs, les retrouver? J'espère que ça vous manque ce temps vous êtes en manque dans ce temps de confinement, de pouvoir revoir les visages, être à côté de nos frères et sœurs. Et que ce soit, j'espère que lorsque nous allons nous retrouver, ça ne sera pas juste le premier jour où on sera content de se retrouver, mais qu'on maintiendra cette disposition, ce désir de toujours être en communion les uns avec les autres, et d'être fidèles dans toutes les rencontres que le Seigneur nous permet d'avoir. Et puis, le désir de croître dans la connaissance. Est-ce que nous avons ce désir de grandir dans tout ce qui est fait? Il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup d'enseignements qui sont donnés. Est-ce que je m'expose à l'enseignement de la parole de Dieu? C'est cela qui démontre que nous avons vraiment cet esprit de Dieu qui agit en nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à vivre pour lui, à vivre de l'Évangile, à être conscient que c'est le besoin pour toutes les nations, que ce message doit être entendu par toutes les nations et qu'il faut le partager, témoigner de manière à ce que les nations puissent faire l'expérience de ce salut en Jésus-Christ. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole. Merci parce que tu ne fais pas de favoritisme. Merci parce que tu as ouvert la porte du salut à des gens tels que nous. Ô Dieu, quelle grâce. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour cette vie que tu as vécue, cette mort, cette résurrection. Et Seigneur, la parole nous dit que c'est pour nous que tu as accompli toutes ces choses. Et nous te remercions pour ce salut si précieux que nous avons, toi. Donne-nous de mesurer l'importance de l'Évangile, Seigneur, afin que dans ces temps de confinement que nous vivons, nous soyons toujours prêts à le partager, Seigneur, avec ceux qui sont autour de nous. Donne-nous cette conscience que c'est le besoin de toutes ces personnes qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas. Donne-nous cette conscience que l'Évangile, c'est notre propre besoin, que nous avons besoin de grandir de croître dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, cette conscience que nous avons besoin d'obéir et de nous soumettre à tout ce que ta parole nous commande et nous enseigne. Seigneur, donne-nous de vivre une vie qui t'honore. Merci encore pour ta parole et qu'elle puisse accomplir son œuvre dans notre vie à la gloire de ton nom. Amen.
Amen.